visité ma maison à 10h du matin, à 10h10, j'avais dit, bon, bah, je vais vivre là.
Après, il y a toujours eu un état de résistance de la part de la population locale, là, à l'oppression. Je suis arrivé dans ce pays et j'ai trouvé cet esprit-là, ce qui est miraculeux.
CO2, mon amour.
Mais le problème se pose en Ardèche depuis longtemps et il va se poser de plus en plus. Je veux dire, il faut maintenir à tout prix, dans ces pays a priori qui ne sont pas rentables pour la grosse production, une présence paysanne effective et qui garantisse, si vous voulez, l'écologie d'un pays. Je veux dire, sans ça, le centre de la France va devenir un désert.
Avec Denis Chessou sur France Inter.
Cette voix, vous l'avez sûrement reconnue, donc c'était un compagnon de route, c'était Jean Ferrat que j'avais eu le plaisir de rencontrer il y a évidemment maintenant pas mal d'années, donc chez lui à Entraigues. CO2 mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui Laurent César et Adrien Gaza et Alex James donc à la technique. Et cette semaine, eh bien c'est Hélène Biziot qui réalise l'émission, assistée de Camille Blanès. On est ravis d'être là à la fête de l'humanité. Alors ça commence toujours par une petite humeur, vous le savez, et cet après-midi, eh bien, nous sommes délocalisés par ma direction à la fête de l'humanité. Changez d'air, quittez le 16e arrondissement, ça vous fera du bien, bande d'écolos. Alors faut dire qu'après l'opération 20 millions de plus à économiser à Radio France, eh bien, évidemment, il faut se trouver des sorties sympas, des sorties culturelles, vaguement environnementalistes et pas chères. Puis il fallait aussi ramener quand même notre taux de CO2 à France Inter qui a un peu explosé, alors malheureusement, à cause de la couverture d'Irmaladur, et puis aussi la joie péruvienne des JO à Paris. Alors aussi, en bon petit soldat, adepte de la frugalité festive, un ticket de métro, direction la ligne T1, station La Courneuve, et ensuite la navette, et sur place, vous prenez un kebab frites grasses végétarien, un café solidaire pour le déjeuner, on achète l'humain du jour pour les soutenir, et hop, La Courneuve, donc nous voilà. Alors nous sommes là donc peut-être pour analyser le cycle de vie du cornet de frites, de la canette de bière, du pack de moules ou du discours de Pierre Laurent, je n'en suis pas sûr. Mais nous allons analyser un fruit tout rouge, oui, à la fête de l'humanité. Très joli symbole, j'ai nommé la tomate, une tomate rouge, car on sait se tenir quand même, nous sommes invités, France Inter est partenaire. Moi j'applique le dress code local, la tomate rouge, qui est aussi la couleur de votre station préférée. Alors pas de faucille pour la découper, un simple couteau va suffire. Pourquoi un sujet donc sur la tomate? Alors un, parce que d'abord c'est la saison, et puis le concentré de la dite tomate est aussi un concentré du capitalisme, on en parlera avec Jean-Baptiste Mallet et donc son ouvrage. Humanité, très joli nom humanité, et Bertolt Brecht disait « le problème avec l'humanité, c'est que l'humanité, en fait, c'est nous ». Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt quand même le « moi-je », parce que je le vaux bien, qui a triomphé. Il s'agit donc de se regrouper en restant libre, construire ensemble de nouvelles coopérations, de s'associer. Et je peux affirmer que humanité est aussi un mot extrêmement chaleureux. Pierre Rabhi, ancien ouvrier agricole et écologiste à la double culture, eh bien nous rappelle joliment, régulièrement, que humus, humilité, humanisme ont la même racine. Et comme toujours, eh bien vous avez un très joli programme ici pour les 600 000 visiteurs en 3 jours, 100 concerts, dont Renaud et quand même Iggy Pop sur la grande scène, qui sont tous les deux quand même des grands amoureux de la Terre. Deux garçons qui sont nés sous le signe de la sobriété. Oui, sobriété heureuse et de la modération donc tranquille. Deux exemples pour nous tous qui donc les aimons. Alors nous, on est tous un peu, vous savez, comme des terres pauvres en quête de sens. Alors ici, on fait quoi? On discute, on défait, on refait le monde, on se resserre, on se tient chaud sans effet de serre. Donc merci de nous accueillir dans cette fête populaire, la première de France. Soyez les bienvenus. Oui, bonjour à tous. Et merci d'être là, d'interrompre votre parcours, parce que je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à voir ici. Mais le stand de Radio France est donc extrêmement aussi chaleureux, en tout cas, je le crois. Et bonjour, cher Frédéric Danhé.
Bonjour, cher Denis Chessou.
Alors, c'est vrai qu'à une époque, on aurait pu dire que communisme et écologie, c'était un peu un oxymore, quoi. C'était un peu ça. Oui, ça a évolué,
mais effectivement, la logique du Parti communiste, la philosophie du Parti communiste a toujours été une philosophie productiviste. fondée sur le mythe ouvrier, mythe un peu viril, hein, la religion du travail, la religion de l'effort. Et derrière tout ça, il n'y a que l'emploi qui compte, même si c'est un emploi empoisonné. Voilà, j'ai fait un...
L'empoisonnement, ce qu'avait forgé donc Nicole Ferroni, qui est un très très beau mot. Voilà,
c'est un très très bon mot.
L'empoisonnement.
On n'a jamais vu beaucoup, effectivement, ni le Parti communiste, ni les syndicats défendre les ouvriers intoxiqués par l'amiante, hein, ni même dans
d'autres... Maintenant, si, voilà.
Mais ça a été très très lent,
oui,
parce que
long.
C'était la logique de l'emploi. Il y avait aussi une forme de... Moi, je suis né là-dedans, hein, donc le mythe ouvrier fondé sur... Dans le Nord... Voilà, le mythe ouvrier fondé sur « voilà, j'ai un emploi, je suis fort et quels que soient les risques, j'y vais et j'assure cet emploi ». Et donc, pour l'amiante, on n'a pas trouvé beaucoup les syndicats. Maintenant, ça a changé. Pour l'amiante, ce qui a fait avancer beaucoup la condition ouvrière en matière de pollution, en matière d'intoxication, ce sont les femmes, les ouvriers, toujours. Ça a toujours été les femmes.
Santé, environnement, ça a toujours été cela.
Ça a toujours été ça. Et puis ensuite, le Parti communiste, comme les autres, s'y est mis. Et aujourd'hui, comme tout le monde, oui, prône. Considère que, un ouvrier ne peut réellement travailler, n'a de bonnes conditions de travail que s'il vit dans des conditions, que s'il respire, que s'il travaille sans être intoxiqué, que si son travail ne porte pas atteinte à la planète.
Alors, c'est vrai qu'il y a des gens aussi comme André Chassaigne, hein, donc député encore aujourd'hui, donc qui s'intéresse à cela. Édouard Choulet, qu'on a reçu, il y a eu un reportage donc chez lui, donc à Barjac, qui était un des papes vraiment du bio dans les écoles aussi, donc quand même porte ses valeurs. Donc, ça évolue tout à fait gentiment. Pour rester dans l'actualité, on va dire deuxième actualité aussi Frédéric Denré, donc Irma, cette fameuse Irma, qu'est-ce que l'on peut dire aussi aujourd'hui sur la reconstruction? On voit bien qu'effectivement qu'il y a un débat et que les choses n'ont quand même pas été faites de manière forcément très glorieuse au départ sur Saint-Barth et Saint-Martin.
Non, même après la reconstruction suite au précédent cyclone, on en avait parlé la semaine dernière et ça s'est confirmé, le cyclone frappe avant tout ce qui n'a pas été bâti en dur. Alors bâtir en dur sous les tropiques, c'est un peu difficile parce qu'on préfère des maisons très aérées. Néanmoins, sur ces îles-là et dans les Antilles, il y a une pauvreté qu'on n'imagine pas chez nous et les pauvres y construisent avec des tôles et des bouts de bois.
Bien sûr,
ouais. Et quand c'est entraîné par le tourbillon d'un cyclone, eh bien ça s'envole, ça coupe et ça tue. Et donc la reconstruction doit se poser la question de l'investissement de la nation, c'est-à-dire nous tous, peut-être via un jour un impôt supplémentaire pour bâtir en dur, c'est-à-dire en béton, aux normes anticycloniques, même si face à Irma, votre maison reste, le toit s'envole, mais au moins vous ne perdez pas la vie, la reconstruction est un peu moins chère derrière. Il y a une vraie question politique d'aménagement du territoire.
C'est pas complètement idiot, vous savez, la loi littorale qui est un peu malmenée aussi par certains élus aujourd'hui, on voudrait effectivement l'assouplir, comme on dit très joliment, où en fait il faudrait se retrouver au moins à 100 mètres donc, du minimum.
Alors donc, je signale que la loi littorale trouve son origine dans ce que Colbert avait imposé aux colonies françaises, notamment dans les Caraïbes, qui s'appelle les 50 pages géométriques du roi, qui s'applique toujours d'ailleurs dans les Antilles. Donc on est censé construire au minimum à 50 pas géométriques, c'est-à-dire entre 80 et 100 mètres du littoral. Ça n'a jamais été fait. Cela dit, on est sur une île. Est-ce qu'on peut vraiment reculer? Est-ce qu'on peut vraiment...
Pas toujours simple. Hein,
ah, oui. C'est pas toujours simple. Mais voilà, est-ce qu'on reconstruit? Est-ce qu'on recule? Ou est-ce qu'on s'échappe? On a peut-être vu les premiers réfugiés climatiques français, là, dans les personnes qui revenaient de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, qui disent ne plus vouloir revenir. En tout cas, c'est une vraie question politique et d'aménagement du territoire qui nous concerne, parce que je vous rappelle que ce sont des territoires français qui font que la France a la deuxième surface maritime du monde.
Alors nous aurons bien sûr donc d'autres actualités avec Frédéric Denré, qui intervient régulièrement dans cette émission. Dans l'actualité, il y aura aussi le bio avec Stéphanie Pajot, qui est la présidente de la Fédération nationale
l'agriculture biologique. Oui, c'est ça, Denis.
Oh là là, bien, c'est pas grave. Et puis bien sûr, on va parler de la tomate dans quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi. Avec le côté d'ailleurs tout à fait aimable, avec des petits reportages qui ont été donc effectués en Indre-et-Loire. Et puis aussi donc Jean-Baptiste Mallet, qui lui va nous parler de l'empire de l'or rouge, à savoir le merveilleux ketchup. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? Tenez, un petit Brassens, ça vous fait plaisir? Ça va Brassens pour tout le monde? Allez, on y va pour Brassens.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie,
j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Voilà, en direct de la fête de l'humanité, ce qui nous fait donc du bien d'écouter un petit Brassens, ce qui est là, qui était plutôt un arbre, lui, c'était ça. Auprès de mon arbre, je regarde. Ah si, on voit quand même la cime, quand même de 2-3 arbres, là au-dessus donc de l'agora de l'humanité, qui est derrière, avec un très beau ciel gris-bleu. Ça veut dire que nous allons avoir évidemment des passages, un peu comme vous en ce moment, donc avec des averses. Et donc, on va parler, ça va être un de nos thèmes, là, qui est très intéressant, qui est celui de la tomate. Alors, pourquoi la tomate? Parce que, c'est la saison. Et puis deux, parce que si on s'intéresse non pas à la tomate, mais au ketchup, entre autres choses, au concentré en fait de tomates, eh bien on va arriver sur des choses tout à fait passionnantes. Voilà, on va voir ça avec Jean-Baptiste Mallet. Ce que je vous propose d'abord, c'est de partir du côté du château de la Bourdaisière. Nous sommes en Indre-et-Loire, et il y a un garçon qui s'appelle Louis-Albert de Breuil, qui est prince jardinier.
Il n'est pas communiste. Hein,
non, mais, c'est, bah, mais en même temps, il voulait être là, c'est ça, mais nous sommes pour l'hybridation.
Mais oui.
Donc voilà, on trouvait ça très très bien. Non, j'ai rencontré il y a quelques jours Laure, justement, de la fête de la tomate qu'il organisait dans son conservatoire. Donc déjà, on pose le décor de la tomate, on écoute avec lui, on se fait un peu plaisir, l'histoire, et puis après, on revient évidemment sur cette mondialisation dite de la tomate.
Là, je découvre une Green Zebra Cherry, qui est une variété.
C'est bon, ça?
C'est plus que bon, c'est délicieux.
Ah,
c'est sucré. Une petite pointe d'acidité, on va parler comme les œnologues. Ces phrases qui sont, quelquefois, insupportables. C'est long en bouche. Mais en tout cas, c'est beau. Ça s'appelle une tomate.
Et c'est pas insipide.
Et voilà. C'est pas insipide, et c'est plein de vie, c'est plein de chair, c'est plein d'histoire en même temps.
Et alors ça veut dire qu'en fait ici, nous sommes au milieu de quoi? De 700, 500 variétés différentes?
Nous sommes au milieu d'un conservatoire qui rassemble 700 variétés différentes, qui expriment cette diversité végétale exceptionnelle, ce grand voyage de la tomate que madame admire, je l'espère. Nous avons des visiteurs à la Bourdaisière, donc elle s'est battue avec une tomate. Est-ce que vous êtes arrivée, chère madame?
Ah oui, dites donc.
Je ne veux pas savoir, ne le dites pas.
C'est une
ne l'avouez pas. Et donc, les 700 variétés sont le produit de 25 ans de collection auprès d'un certain nombre d'acteurs, conservateurs, collectionneurs, humanistes qui ont compris que cette diversité végétale, il fallait la préserver pour la comprendre et surtout pour la transmettre.
Et alors, si on regarde donc l'histoire de cette tomate, on va se dire qu'au départ, elle parle espagnol parce qu'elle est péruvienne.
Alors, elle n'est pas que péruvienne, on l'a trouvée dans des tombes au Pérou, des tomates qui visiblement avait été une nourriture, qui était donc ces petits fruits, la tomatillo, le tomato, en langue quechua, mais qu'on a retrouvé effectivement au Mexique, qui a priori n'était pas consommé, toujours dans des petites tomates buissonnantes, qui ont été ramenées par les conquistadors. Là, elle aurait été cuisinée.
Qui était déjà plus grosse quand tu
étais un peu plus grosse, ouais. Dont on a tout de suite classifié comme une solanacée, cousine de la mandragore, de la belladone, donc les plantes maléfiques.
Alors ça, attendez, ça veut dire délit de sale gueule, parce qu'effectivement, on a vu le fruit de la tomate et on s'est dit, donc elle ressemble, ce petit fruit rouge, à la belladone, qui est quand même une empoisonneuse extraordinaire.
Quoi. Oui, et puis après, c'est une empoisonneuse, mais comme la mandragore, qui est aussi la plante qu'on mettait au pied des gibets, qui est un autre symbole. Donc, elle était chargée de petites ou de grandes mauvaises histoires. Un franciscain, père franciscain espagnol, l'a cuisinée en Espagne, mais c'est tardivement, presque 100 ans après qu'elle a commencé à être cuisinée en Italie, et rapidement, évidemment, les Italiens l'ont aménagée, ont fait quelques recettes avec une pomme qu'on appelait la pomodoro plus tardivement. Mais ce sont les Français, à la Révolution, dans ce restaurant des Trois Frères Provençaux au Palais Royal, qui en ont fait une ratatouille ramenée de Marseille, et ce qui a chanté le grand départ de la tomate, évidemment, jusqu'en Amérique.
C'est donc en fait un légume-fruit, on va dire, quasiment révolutionnaire, parce que nos chers Marseillais, donc au son de la Marseillaise, arrivent sur Paris,
oui.
Et puis ils disent « on veut de la tomate ». Et ils ont lancé un peu la mode de la tomate, et des maraîchers autour de Paris s'y sont mis. Alors.
Mais alors c'était la tomate cuite, parce que, encore une fois, pour tuer cette acidité, dans de l'huile, et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'elle rentrait dans le catalogue Villemorin, on en parlait évidemment comme un plat très goûteux, mais c'est encore plus tardivement probablement qu'on a découvert ses propriétés organoleptiques et surtout médicinales, avec tout ce cortège, florilège de vitamines A, B, C, D, de potassium, de manganèse, et puis surtout du lycopène et évidemment des polyphénols, pardon. J'ai trop de tomates dans la bouche.
Ouais.
Et en même temps, cet antioxydant qu'on devrait absorber en quantité et sans modération pendant l'été, et surtout transformer et conserver pendant l'hiver.
Voilà, donc Louis-Albert de Breuil, donc chez lui, dans son château de la Bourdaisière, dans ce conservatoire de la tomate. Hein, il y en a plus de 3500, me semble-t-il, dans le monde. Là, vous en avez donc 700. Alors ça, c'est le côté, évidemment, tout à fait aimable de la tomate. Et vous avez donc aussi de la tomate dite industrielle. Ah, alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ben, on va en parler avec vous. Bonjour Jean-Baptiste Mallet.
Bonjour.
Vous avez écrit donc L'Empire de l'Or Rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie, aux éditions Fayard. Alors justement, tout de suite, la différence entre nos aimables aux belles tomates dont parle Louis-Albert de Breuil très très bien, et puis la tomate industrielle. Qu'est-ce que c'est une tomate industrielle?
Eh bien, c'est le paradoxe, c'est que toute l'humanité en mange, mais personne n'a jamais vu de tomate d'industrie. C'est une tomate, en fait, qui est destinée à finir sa vie dans une usine pour y être transformée. Ça représente un quart de la production mondiale de tomates. Et donc, avec cette tomate d'industrie qu'on transforme, on va faire soit des barils de concentré de tomates, soit des produits comme du ketchup, du coulis, des pizzas surgelées, en fait toute cette nourriture industrielle qui nous environne. Ici aussi à la fête de l'Huma, bah, quand on mange du ketchup dans sa merguez,
ça n'y est pas, hein, les uns les
autres. On mange de la tomate d'industrie.
Oui, c'était ça. Ben oui, donc c'est ça aussi. Alors c'est une histoire qui a commencé en fait devant une usine qui a un très joli nom, qui s'appelle le Cabanon. Donc nous sommes à Camaret-sur-Aigue, dans le Vaucluse, et qui est la principale usine de sauce tomate française. Alors aujourd'hui, elle est propriétaire d'un groupe agroalimentaire, d'un conglomérat de l'armée chinoise, que l'on ne savait pas, et on le sait maintenant donc aussi grâce à vous. Et alors comment ça a commencé cette enquête? Parce que vous vous êtes dit, tiens, c'est marrant, quoi, il y a quand même des barils avec marqué « Made in China ».
Moi, j'ai été intrigué, en fait, en 2011. Je faisais à l'époque un documentaire qui n'avait absolument rien à voir avec la tomate. Et un ancien ministre me parle de l'histoire du Cabanon racheté en 2004 par l'armée chinoise. Je suis intrigué. Je décide de téléphoner aux Chinois. Ils refusent de me recevoir. Je me rends sur place. Et là, je vois de grands barils bleus de 230 kilos de triple concentré. On refuse à nouveau de me recevoir, mais je vois derrière la clôture des étiquettes « Made in China ». Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes en Provence et on fait venir de l'autre bout du monde des tomates de Chine, en l'occurrence du Xinjiang, pour les transformer en Provence. Et en fait, il s'avère que le Cabanon, pendant de très longues années, a fourni les plus grandes marques de la grande distribution pour produire les sauces que vous voyez dites provençales. Et donc le Cabanon produisait par exemple pour Carrefour de la sauce tomate dite provençale qui n'avait de provençal que le nom. Donc j'ai eu envie de raconter cette histoire, de remonter cette filière. Et quand j'ai compris que la tomate d'industrie était une marchandise absolument universelle que toute l'humanité en mangeait, ben j'ai eu envie de raconter le capitalisme avec la tomate.
C'est-à-dire que Brodel nous parlait de la civilisation du riz, celle du blé, et vous, vous avez fait donc la civilisation en gros de la tomate, quoi.
Oui, je me suis amusé à pasticher Brodel en parlant de civilisation de la tomate parce que aujourd'hui, même les êtres humains en situation de pauvreté absolue, par exemple en Afrique de l'Ouest, qui vivent avec $1 par jour ou moins $1 par jour, sur ce peu d'argent qu'ils ont, ils utilisent quelques centimes pour acheter parfois à la cuillère du concentré de tomate qui vient de Chine. Et donc, des plus pauvres au sein de l'humanité jusqu'aux plus riches dans les pays industrialisés, tout le monde consomme de la tomate d'industrie. Mais ça s'est fait en un temps très court. Ça s'est fait en un siècle à peine. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en un siècle, tout le monde se mette à manger cette tomate d'industrie? Et donc c'est là qu'on arrive à une grande saga, une grande histoire industrielle et un voyage, puisque je me suis rendu au Ghana, je me suis rendu en Chine, je me suis rendu en Californie,
en Italie.
Pittsburgh, en Italie. J'ai essayé pendant 2 ans et demi comme ça de raconter cette grande saga.
Alors, donc, on voit bien que derrière tout ça, il y a évidemment donc des cueilleurs, donc des gens qui vont ramasser cela. C'est pas exactement un métier d'avenir. Quand on voit la réalité, donc aujourd'hui, ils doivent peut-être gagner 20 euros par jour en travaillant, je sais pas, 12 heures par jour. Bon, le code du travail, là, c'est pas exactement, si vous voulez, leur truc. Donc c'est ça aussi qui est derrière cette mondialisation. C'est aussi la pauvreté des gens qui est là comme sur beaucoup de produits.
On est malheureusement habitué aujourd'hui à avoir des téléphones portables produits en Chine dans des conditions souvent d'exploitation. On a tendance à l'oublier. Et il faut savoir que les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de cette exploitation. Aujourd'hui, en Europe, on importe énormément de condiments qui viennent de Chine. Ça peut être de la tomate, mais aussi de la purée d'abricot, de la purée de jus de pomme pour faire les jus de pomme industriels.
Le champignon de Paris.
Absolument. Absolument. Le miel aussi, dont on nous dit qu'il est originaire de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne. Donc on nous indique qu'il est produit sur la Terre et qu'il n'est pas importé de la Lune ni d'une autre planète du système solaire. Mais oui, dans le libre-échange, on entend aussi libre-échange des denrées agroalimentaires. Et donc dans mon livre, dans mon enquête, j'ai voulu remonter ce grand circuit qui a fait que des industriels italiens, avides, et notamment napolitains, parfois liés à la Camorra, sont allés organiser un immense transfert de technologie en Chine.
C'est de l'agromafia.
Pour ensuite récupérer du concentré qui arrive à Naples, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je suis allé dans le port de Salerne et de Naples, j'ai visité des conserveries napolitaines. Et en fait, la destination numéro une du concentré chinois, c'est l'Italie, où il est réembouteillé et vendu aux Européens, aux Africains comme italiens.
Et il suffit simplement de mettre Italie, ça ne dérange pas l'Union Européenne, pour se dire, bah oui, ça a été, c'est made in Italy, quoi, en quelque sorte.
Oui, comme nous sommes aujourd'hui gouvernés par des ayatollahs du marché, tout est fait pour faciliter la fameuse compétitivité. Donc, on facilite l'arrivée en Europe de concentrés chinois via des régimes douaniers. Alors, il y a le régime traditionnel, mais il y a aussi un régime qui s'appelle le perfectionnement actif, qui permet...
Ça, c'est très joli. Le perfectionnement actif, ou comment contourner les droits de douane.
Tout à fait. L'Union Européenne a mis en place un système qui permet à des industriels napolitains de faire rentrer sans droits de douane du concentré chinois, à condition officiellement de le réexporter par exemple en Amérique du Sud ou en Afrique, sauf qu'en fait il y a des triches sur les dilutions. Vous faites rentrer du triple concentré de tomate, qui est très concentré, vous le mélangez avec un peu d'eau, un peu de sel, vous faites du double, mais aucun douanier ne va vérifier boîte par boîte les dilutions, et donc il y a des fraudes à ce niveau-là, et il y a du concentré chinois aujourd'hui sur le marché, qui d'un coup de baguette magique devient du concentré italien et qui rentrait sans droit de douane.
C'est formidable ça, Frédéric Danhé, je trouve.
Moi j'adore, c'est fascinant le capitalisme, oui. Le marketing, mais le miel effectivement c'est pareil, hein. On donne à bouffer du sucre, on donne à bouffer à des abeilles du miel sucre. Parce qu'elles ont plus parce qu'elles ont plus de fleurs, et le miel qu'on obtient en Chine, et ben on le recoupe avec du sucre, et puis on met que c'est du miel. Voilà.
Oui. Ben c'est bien aussi.
C'est formidable ce bouquin, parce que voilà, on raconte le capitalisme par un produit, c'est la tomate, et un produit dont l'industrie naissante aux États-Unis a inspiré l'industrie de la viande, laquelle a inspiré l'industrie de la bagnole. Il n'y aura jamais eu l'industrie de la voiture Ford et Citroën sans l'avion, on le voit bien dans Tintin en Amérique, et sans l'industrie de la tomate.
Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que là on clique sur la case Hens. Donc, alors Kraft maintenant et Hens, donc ils se sont reliés. Ça doit être 28 milliards de chiffre d'affaires, me semble-t-il. Enfin, c'est quand même pas rien. Et au départ, donc il y avait un monsieur Hens, donc qui était assez paternaliste, qui s'est dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir effectivement mes ouvriers en les payant quand même pas trop cher, mais un petit peu plus quand même. On est donc avant Ford, c'est-à-dire qu'il y a un Heinzisme avant le Fordisme.
Moi, je me suis amusé à l'appeler le Heinzisme, parce qu'effectivement, il y a un scoop historique dans ce livre, c'est que le taylorisme, avant d'arriver dans les usines Ford, arrive dans les usines de l'agroalimentaire. Il y a un deuxième scoop, c'est que souvent dans vos livres d'histoire, quand on vous montre la production de masse, les usines, les lignes de production, on vous montre des hommes sur des chaînes automobiles, or les femmes qui travaillaient dans les conserveries, et notamment les conserveries Heinz au 19e siècle, elle aussi était aux origines de la production de masse et de cette exploitation. L'histoire de Heinz est assez fascinante parce que c'est un capitaine d'industrie nord-américain qui a très clairement été un pionnier, un entrepreneur au sens strict du terme. Les usines Heinz à Pittsburgh, les ateliers ont été les premiers à utiliser l'électricité, à être raccordés au téléphone, et c'est aussi un modèle du genre pour le paternalisme. Chez Campbell, vous connaissez tous la Campbell Soup avec les boîtes d'Andy Warhol, il y a eu des luttes sociales très violentes, un anticommunisme viscéral, des grèves absolument démentes, des syndicalistes qui ont fait la guerre d'Espagne. Chez Heinz, il n'y a jamais eu de grève parce qu'il y avait un paternalisme absolument dingue.
Il y avait des gymnases Heinz, il y avait des piscines, il y avait des bibliothèques où on choisissait quand même scrupuleusement les bouquins qu'il fallait lire aussi dedans. Enfin, on enrobait tout ça.
Et il y avait aussi un endoctrinement qui est absolument hallucinant parce qu'on s'est souvent moqué à l'époque de l'Union soviétique avec les médailles du héros du travail, mais elles existaient chez Heinz. On le sait peu, mais elles existaient aussi au sein du capitalisme.
On remettait aussi. Vous avez une mine orange, on vous décore aussi de ça. Voilà, ça continue.
Absolument. Ouais. Et là, on remettait des médailles à l'effigie d'Henri John Heinz, le bon père de famille dont le portrait était placardé partout.
Bon, alors voilà. Donc, vous voyez, on part de la tomate. Après, on arrive au concentré de tomate. On arrive à la mondialisation de la tomate. Et alors, on va quand même revenir là, se faire du bien avec des tomates qui tiennent la route. Vous voyez, alors là, Stéphanie Pajot, je me tourne vers vous, donc la présidente du bio. Ça va nous faire du bien de parler aussi un petit peu de bio derrière. On va rejoindre donc Louis-Albert de Breuil, donc toujours dans son château de la Bourdaisière, avec son attirance personnelle donc pour la tomate.
J'étais élevé dans un potager en Normandie où il y avait des tomates. Et donc j'ai toujours trouvé que les tomates avaient un côté spectaculaire. Là, regardez, on a la petite moineau à côté de la grosse portugaise. La grosse portugaise, elle fait quasiment un kilo. Le petit moineau, ça fait quelques grammes. Je ne soupçonnais pas cela quand j'ai été chercher, après avoir vu sur les marchés du monde entier, des tomates de toutes les couleurs, de toutes les formes, chez mon camarade Dominique Guillet, qui avait créé Terre de Semences, ou chez mon grand Philippe Desbrosses, qui avait créé la ferme Sainte-Marthe. J'ai dit, mais je vais cultiver ça. Sans savoir qu'en 95, entre la dioxine de la vache folle et la défiance vers cette alimentation suspecte, c'était la diversité qui allait remporter le pari de l'intelligence. Les industriels, les agriculteurs, les maraîchers l'ont compris, il faut cultiver la diversité.
Aujourd'hui, le monde globalement de la finance qui souhaite entre 12 et 15% de retour sur investissement pour les actionnaires. Bon, ce monde-là, évidemment, va dans le mur avec ce genre de non-réalité. Comment ça se passe pour vous ?
Ben d'abord, nous, on n'a jamais distribué de dividendes en 25 ans. D'abord, parce qu'on a des entreprises qui sont toutes petites, parce qu'elles ont un caractère très familial. Et puis, en plus de ça, parce que moi, je crois qu'on devrait inciter très largement ces grandes entreprises familiales. Hein. Les entreprises institutionnelles, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est un pool d'actionnaires et voilà. Mais à réellement donner le là de cette distribution, évidemment, qui serait capée à 3%, par exemple, parce que je considère que c'est une juste rémunération du capital, mais en même temps que le reste soit investi dans des projets d'économie territoriale. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais si tout le monde le faisait, les territoires auraient des petites entreprises qui seraient ancrées dans l'identité de ces écosystèmes, et ça serait au service de l'humain comme au service de l'écosystème. L'homme, si on n'investit pas dans le territoire, l'homme n'appartient plus à rien.
Louis-Albert de Breuil, comment réenchanter ce merveilleux métier d'agriculteur aujourd'hui ? Parce que c'est quand même une des clés, c'est pas la seule. Il y a aussi évidemment la redistribution, on va dire, de la PAC, entre autres choses. Mais comment aussi redonner un peu ce goût, réenchanter ce métier qui est quand même génial ?
Il faut réenchanter avec la micro-agriculture, avec toute cette innovation que revêt l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture. Et en même temps, et ça c'est le deuxième chapitre, il faut recréer des écosystèmes humains transgénérationnels qui vont, dans les territoires, faire prendre conscience qu'il n'y a pas d'un côté les écoles, la micro-ferme, l'entreprise, et je ne sais pas quoi d'autre, et l'hôtel, et ainsi de suite. Il y a des écosystèmes interconnectés qui vont, justement, depuis le plus jeune âge, montrer que l'économie circulaire, c'est bon pour un jardin, et que la biologie, il faut l'enseigner différemment, parce que c'est la mathématique, c'est la chimie, c'est la physique, et surtout que les systèmes de coopération seront plus importants que les systèmes de compétition.
Toujours, donc dans cet royaume de la tomate, mais là, de la tomate aimable. Et je vous le disais donc aussi, pour l'actualité, eh bien nous avons donc à nos côtés Stéphanie Pajot, donc qui est la présidente de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Et parce que là, en ce moment, jusqu'au 24 septembre, vous avez une très belle opération qui s'appelle Bio et Local. Alors, qu'est-ce que vous vouliez affirmer aussi dans toute la France, parce qu'il s'agit en fait d'avoir des portes ouvertes un petit peu partout dans les exploitations bio, avec ce Bio et Local. Stéphanie.
Eh bien, c'est une campagne qu'on mène depuis plusieurs années et ce qu'on veut faire, c'est recréer du lien, comme ça vient d'être dit, entre les producteurs et les consommateurs pour leur dire que c'est possible de produire sans produits chimiques de synthèse, sans OGM.
Et de faire de la tomate bien comme il faut.
Et de faire de la tomate de saison.
Voilà.
Et que finalement, en se rapprochant, citoyens, consommateurs et productrices, producteurs, eh bien, on arrive à construire une autre économie sociale et solidaire. Je crois que c'est dans la thématique de la fête de l'humanité. Oui. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. Et donc, cette année, on a choisi d'insister plus particulièrement sur le commerce équitable parce que, effectivement, l'agriculture biologique n'est pas qu'un marché, c'est aussi un autre projet de société. Et nous, on cherche à construire effectivement de nouvelles relations commerciales basées sur la coopération, la transparence, l'équitabilité des échanges qui vont du producteur au consommateur. Et donc, il faut à la fois une juste rémunération des productrices et producteurs et il faut aussi un prix accessible aux consommateurs.
Et donc, alors, juste rémunération, ça nous ramène quand même sur l'actualité qui a lieu il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, l'UFC Que Choisir donc a bien pointé le surcoût des produits bio et qui est dû à 46% aux marges des enseignes. Alors qu'effectivement, le consommateur pourrait se poser la question légitimement. On se dit, le prix du bio est aussi plus élevé pour des raisons de production, parce qu'il n'y a pas d'engrais, parce qu'il y a des rendements qui sont plus faibles. Il n'y a pas exactement que ça, manifestement.
Manifestement,
vous
oui,
avez à peu près 50%, me semble-t-il, de produits bio qui sont vendus dans les grandes surfaces un petit peu moins.
Un petit peu moins, oui. D'accord. Après, le reste est vendu en magasins spécialisés bio et il y en a quand même plus de 20% qui sont vendus en vente directe.
En vente directe, oui.
Et donc, pratiquement 50% des productrices et producteurs bio en France font de la vente directe parce qu'ils ont compris qu'il fallait diversifier leur circuit de commercialisation et parce que pour eux, c'est extrêmement important d'avoir le vrai lien avec leur consommateur parce que finalement, ça permet de rétablir l'équitabilité et de montrer tout ce qu'on fait sur les territoires.
Alors, les distributeurs qui se gavent avec le bio...
Oui, les distributeurs qui se gavent. Effectivement, nous, cette étude, elle nous a beaucoup surprise. Et donc, ça nous amène à demander beaucoup plus de transparence sur comment ils construisent leurs marges et leurs prix. Et dans le cadre des états généraux qui sont en pleine actualité, effectivement, nous, on demande à ce que il y a un vrai travail qui soit mené avec l'Observatoire des prix et des marges sur l'agriculture biologique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien sur la bio, finalement, sur cette thématique-là. Et donc, on souhaite effectivement que...
Je vous rassure, il n'y a pas du tout le mot agroécologie ni agroforesterie dans les états généraux. On l'a vu passer. Ça, manifestement, c'est un gros mot.
En tout cas, nous, on le porte, puisqu'on fait partie de 9 ateliers sur 14. Et donc, on essaye désespérément de faire entendre notre voix. Parce qu'il nous paraît qu'effectivement, quand on parle de transition de l'agriculture, l'agriculture biologique est le moteur de cette transition agricole. Et que pour le coup, il faut de vraies ambitions du gouvernement sur le développement de l'agriculture biologique en France. Aujourd'hui, on est à peine 6% de la surface agricole utile. Nous, on voudrait avoir un objectif d'au minimum 20% d'ici 2022 et évidemment avoir les moyens en face de cette ambition. Malheureusement, aujourd'hui, les décisions de Stéphane Travert sur la politique agricole commune sont plutôt à l'inverse de ces objectifs-là. Donc on s'interroge et on espère qu'on va avoir de l'ambition de la part d'Emmanuel Macron.
On imagine bien aussi, Jean-Baptiste Mallet, que les fameuses grosses tomates industrielles extrêmement solides, qui sont quasiment des boules de pétanque, c'est assez increvable. Il n'y a pas tellement de bio là, on n'est pas là-dedans. Alors, il n'y a pas d'OGM forcément, c'est ce que j'ai vu.
Non, il n'y a pas beaucoup d'OGM, ça va arriver parce que petit à petit les OGM gagnent du terrain. Il y a quelques produits bio, en Californie il y a du bio californien, oui, mais oui, ça reste un bio extrêmement intensif. Produit dans une région qui manque cruellement d'eau. Il y a du bio dans cette filière, mais il y aurait beaucoup à dire sur le bio, notamment sur le bio italien, les tomates pelées, qui sont souvent ramassées par des migrants en situation d'esclavage. Et donc vous avez à la fin une boîte bio, mais qui, d'un point de vue social, est absolument catastrophique et qui nous ramène vraiment aux pires heures de l'histoire de l'exploitation.
Alors, les premiers, on va dire, exploitants donc au monde de ces fameuses tomates, et aussi donc pour sortir le concentré, c'est la Californie. Et donc après, c'est la Chine, mais c'est assez récent. Et en même temps, c'est un pays en fait qui ne consomme pas cela. Alors quand on dit que évidemment c'est 20% de l'humanité en ce qui concerne la Chine, et peut-être même maintenant un petit peu plus, avec simplement 9% de terres arables de la planète, bah, on se dit quand même que le secteur agricole ça tourne, et en même temps ils nourrissent pas leur population avec ça.
Non, absolument pas. En fait, il m'a fallu 2 ans pour comprendre un phénomène assez complexe, qui était que durant la seconde moitié du XXe siècle, les Italiens fonctionnaient en cartel. Donc il y avait en Italie, à Naples, au sud, les grandes conserveries qui vendaient des pots de concentré, et au nord, à Parme, les vendeurs de machines-outils qui vendaient les usines, et les traders qui, eux, avaient la main mise sur les grandes circulations et les flux de concentrés de tomates qui circulaient en baril. Et en fait, ils n'ont cessé d'aller équiper des pays pour récupérer ensuite le concentré et garder la main mise, sur le business mondial. Et ils sont allés, à partir des années 2000, au Xinjiang, donc la partie à l'extrême ouest de la Chine, qui a été colonisée par la Chine en 1949, où c'est l'armée chinoise qui gère tout, qui gère les filatures, qui gère les champs, l'extraction minière. Et donc, pour créer de l'activité, l'armée chinoise encadre tout ça, a fait un pacte avec les industriels italiens et s'est mis à devenir le premier producteur mondial en quelques années à peine.
Et alors, lorsque l'on regarde l'Italie, vous faites aussi un lien entre le fascisme italien et aussi le concentré de tomates. Racontez-nous ça.
Eh bien, la tomate a une histoire qui est politique. Et en ce qui concerne l'Italie, la boîte de tomates a été quelque chose extrêmement identitaire. Donc, sous le fascisme italien, il y a une politique agricole qui est lancée, qui s'appelle l'autarcie verte, et qui tend à faire de l'Italie un pays autosuffisant d'un point de vue agricole. Et donc, à cette époque-là, la boîte de conserve devient un emblème idéologique du fascisme, puisque la boîte permet de conserver ce qui a été cultivé sur les terres de la patrie dans une boîte. Et d'ailleurs, on voit même des industriels fascistes faire de la propagande aux États-Unis auprès des immigrés italiens, de la diaspora italienne, en utilisant l'étiquette de la boîte de tomates avec des emblèmes fascistes, de l'agriculture rationaliste, des choses comme ça.
On va poursuivre ce voyage aussi donc du côté de l'Indre-et-Loire. On revient encore une dernière fois avec Louis-Albert de Breuil. Et là, il faut dire qu'il avait eu un petit choc aussi avec une entreprise il y a déjà quelque temps.
Quand il y a 25 ans, quand j'ai commencé, il y avait des esprits jeunes et éclairés, et c'est eux qui ont forgé mon engagement. Une maison qui s'appelait, pour ne pas la nommer évidemment, Savéole, oui. Il y avait 2 jeunes filles qui étaient là, on rentre dans le potager, on est au mois d'octobre, je fais des conférences sur la notion justement de goût, et elles voient des tomates de toutes les couleurs, et elles disent, ça c'est quoi? Parce que c'est pas mûr. Et je leur dis, mais ce sont des tomates des variétés anciennes. Et là, je me suis aperçu du désastre dans lequel on vivait. Ces jeunes filles qui devaient avoir une trentaine d'années me disent « Monsieur, ça fait 4 générations qu'on fait de la tomate, on sait de quoi on cause. » Et là, et je me suis dit « Mais comment des gens peuvent aussi ne pas connaître la diversité de leurs fruits qui leur fait leur quotidien, leur vie, leur métier, leur revenu et leurs soucis aussi, et en même temps vouloir tuer, détruire tout ce qui se fait par la réduction du brevetage, mais en même temps, cette réduction qui est la mainmise d'un monde économique
sur le vivant,
prédateur sur le vivant. Et puis maintenant, la prochaine étape pour la tomate, c'est l'incubateur tomate qu'on va créer ici pour faire de la recherche avec aussi bien une vision transformation en produits alimentaires, mais aussi une vision plus scientifique sur les aspects cosmétiques et les aspects médicinaux de la tomate.
Alors on a des noms superbes, hein. Mauve de Russie, Blanche de Picardie, après il y a des noms, Paul Robinson, donc la Black Zebra, Solanium, White Tom Sol.
La Paul Robinson, c'était amusant parce que c'est évidemment le chanteur, qui étaient communistes, noirs, qui est parti en Union soviétique, et pour leur régler leur compte en Union soviétique, ils ont envoyé une tomate rouge et noire, qui est la Paul Robinson. Il y a la tomate du voyageur qui est assez étonnante.
Alors ça, ouais.
La tomate du voyageur, c'est une tomate dont
raconte l'histoire.
La tomate du voyageur, c'est une tomate côtelée, et quand on retire une côte, elle se cicatrise presque. Tu sens que le reste s'abîme, donc la chair a une propension à s'auto-réguler pour qu'on puisse la mettre dans son sac et en reprendre un autre quartier un peu plus tard. La nature fait bien les choses.
Alors, petit rond écarlate, Popovitch.
Alors évidemment, beaucoup de tomates ont été dans le grand voyage de la tomate, donc États-Unis 1830. C'est la fameuse histoire du général à Salem qui mange une tomate, tout le monde croit qu'il va mourir, il ne meurt pas. Et donc, on considère que les tomates sont évidemment comestibles. Et ensuite, elle part dans le monde entier. Donc, on la retrouve avec la New Zealand Beer en Nouvelle-Zélande. On la trouve ici avec la Japanese Dewey Strike. On la retrouve en Afrique avec la Korogo du Sénégal. C'est une énorme voyageuse, c'est une grande voyageuse. Et surtout, les pollinisations croisées, les obtentions que des petits observateurs...
Ils surveillent vos tomates, voilà. À mon avis. C'est un gros drone, hein, ça, quand même.
Et donc, là, on s'aperçoit encore une fois que cette diversité a joué en faveur des goûts. Parce que des gens se sont dit, l'adaptation à tel territoire doit aller chercher de telles propriétés.
Je vois poire mémée, je vois plaisir d'été.
Ça, je l'adore, celle-là. Est-ce que je peux la faire goûter au cœur sensible? Qui est un cœur sensible ici? Tiens, là, je vais aller chercher en dessous.
Passez-moi une, je suis très sensible aussi. Tenez. C'est bon, il n'y a pas de bestiole dessus déjà.
C'est très très bon.
Ah.
C'est très gros, très charnu et surtout très sucré.
Voilà, on a donc goûté tout à fait tranquillement cette tomate. Et donc, vous êtes gentil, mais enfin, on a un tout petit poil en direct. Et bien, nous aussi, on va avoir besoin de parler. Et alors, donc, Jean-Baptiste Mallet, ce qui est très intéressant. Oui, on est d'accord, mais là, on est un peu dans la tomate, donc c'est un peu compliqué malgré tout. Vous voyez, on n'est pas. Et donc, en ce qui concerne donc cette fameuse tomate qui se marie avec tout, c'est autant un ingrédient, on va dire, de la malbouffe que de la diète méditerranéenne.
Oui, c'est un paradoxe. Pourquoi ? Tu m'acceptes ou non ? Sur cette tribune-là.
Non, pas sur cette tribune, cher monsieur. Non. Et non, je ne peux pas vous accepter sur cette tribune. Non, je ne l'accepte pas. Okay. Voilà, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez un petit retour, Jean-Baptiste ? C'est peut-être pas de retour, là. Voilà. Non, juste dire, effectivement, que ça se mariait aussi. Mais c'était aussi bien de la malbouffe d'un côté que de la diète méditerranéenne.
Oui, c'est tout le paradoxe de la tomate, en fait. C'est que ça peut être quelque chose d'absolument extraordinaire, comme Louis-Albert de Broglie vient d'en parler. La tomate peut contenir des antioxydants, elle a un goût absolument savoureux, mais qu'elle est aussi, en fait, l'ingrédient de prédilection de la malbouffe. On la trouve notamment, par exemple, dans le ketchup Heinz aux États-Unis, qui est produit avec beaucoup de sirop de maïs. Et il faut le savoir, le ketchup contient très peu de tomates. Dans un ketchup, vous pouvez avoir dans les plus mauvais ketchup 6% de concentré de tomates. En fait, le concentré sert à faire le rouge, mais ce sont surtout des épaississants, des gélifiants, du sucre, de l'eau. En réalité, si vous voulez manger les tomates, il faut manger de la sauce tomate, du coulis, mais pas de ketchup. Parce que le ketchup, c'est surtout du sucre, voilà.
D'où la responsabilité de l'obésité, puisque de toute façon, ce ketchup fait partie de l'American Way of Life, qui est non négociable, donc c'est ça.
Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, la bouteille de ketchup Heinz est un emblème du capitalisme, autant que l'est la bouteille de Coca-Cola, en fait. Quand, à travers la bouteille de ketchup Heinz, à travers son voyage, en fait, on peut raconter énormément de choses.
Voilà, alors là, évidemment, donc ça c'est ce voyage que je vous renvoie donc sur cet empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie, donc on est évidemment un petit peu loin du bio, on l'avait dit Stéphanie. Juste un tout petit rappel, donc pour cette opération, donc ce sont des portes ouvertes partout en France.
Oui, les auditeurs peuvent aller sur le site bioetlocal.org et partout en France, vous avez à peu près 6 ans d'animation, vous avez dessiné des bas, des portes ouvertes, vous avez même des animations dans la restauration collective, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'introduction de produits bio dans la restauration collective. Je pense que c'est un enjeu majeur, finalement, d'égalité entre tous les enfants, clients d'avoir des produits bio dans leur cantine ou pour les maisons de retraite ou les hôpitaux. Finalement, pour les gens malades, ce serait quand même bien d'avoir des aliments de qualité pour se remonter le moral.
Bon, en tout cas, on espère qu'il y en ait au moins 20%. Hein, c'est ça aussi le but, c'est d'arriver à 20% de bio dans les cantines. Hein, donc c'est un peu ça l'idée. On l'avait entendu avec Édouard Chollet, on ne va pas revenir dessus. Moi, je vous signale que je vous retrouverai à Valence, ça va être mardi, je crois que c'est en début de soirée, pour Tech and Bio, voilà, donc une grande foire aussi qui a lieu à Bourg-les-Valence, et donc on parlera du bio avec différents donc, interlocuteurs. Tech and Bio, donc c'est à Valence et donc toute sa région.
Tous ces pays qui crèvent de faim, ça va péter de partout. Oh les malheureux, des millions de gens qui crèvent de faim. Je me suis dit, je ne peux pas rester immobile devant ce spectacle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oh ! Je suis allé au restaurant.
CO2, mon amour.
J'avais un tel cafard que je me suis tapé de tout. Je m'en suis mis jusque-là. J'ai dit au maître d'hôtel, arrêtez, comme on dit vulgairement, j'ai les dents du fond qui baignent.
Sur France Inter.
C'est un petit peu du deuxième degré, hein, on vous rassure. Oui, bah oui, évidemment, de retrouver aussi donc Guy Bedos. Alors Frédéric Denry, on va poursuivre aussi notre actualité parce que pas très loin donc d'ici donc à La Courneuve, donc il y a Gonesse. Et Gonesse, il y a ce fameux triangle et il y a donc ce projet complètement dément donc d'Europa City qui n'est jamais qu'un grand centre commercial. Hein, c'est pas autre chose, même si on veut nous parer ça avec des très jolies plumes culturelles là-dessus. Et là, il y a une actualité parce que le commissaire enquêteur, en général. Les commissaires enquêteurs, soyons très clairs, c'est pas des violents. Hein.
Non, en général, France, ils sont toujours d'accord. Oui, en fait, Denis, il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'à Nantes qu'on ait un projet un peu bizarre.
Hein, oui, c'est
voilà.
Ça.
Ben, nous, ici, on a un projet bizarre, un projet à la con, voilà. Alors, il faut savoir qu'ici, on a déjà au Paris Nord, on a Aéroville, on a Paris Nord 2, on a un Auchan à Sarcelles, on a les Halles, toujours de Auchan au Blanc-Mesnil, et puis on a un centre commercial millénaire à Aubervilliers. Eh ben, ça suffit pas. Hein. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Donc, il faut 230 000 mètres carré de surface commerciale supplémentaire sur 300 hectares de terre agricole, évidemment, hein, dans le projet du groupe Auchan, mais pas que. Hein, c'est Auchan et le groupe chinois Vanda qui ont créé une société qui s'appelle Alliage et Territoire. C'est très, très beau. Alors, c'est pas du tout un projet commercial, mon cher Denis, c'est pour l'art de vivre à l'européenne.
Ah ben, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Je me suis trompé, alors.
Voilà, avec un toit végétalisé, avec des façons bocage, hein, m'a-t-on dit sur le parking. 12 000 emplois, évidemment, 30 millions de visiteurs, et sans doute aussi les Beatles, ou statut de George Marchais. On peut tout faire. On peut tout faire. Le commissaire enquêteur a dit non, il n'y a rien qui fonctionne. Effet néfaste sur l'environnement, sur le tissu commercial, cannibalisation des autres centres commerciaux. En fait, c'est une fuite en avant. Le groupe Auchan, comme beaucoup de chaînes de grande distribution, ils ont du mal avec leurs ventes. Leur modèle économique se casse un peu la figure. Et donc, c'est une fuite en avant. Alors, c'est un peu dommage parce que Auchan ne fait pas que du mauvais. Il a signé en 2014 avec la FNAB un accord pour fournir ses chaînes en viande bio. Voilà. Mais là, c'est juste n'importe quoi. Ça va être toqué et c'est tant mieux.
Alors, cher Jean-Baptiste Mallet, donc vous écoutez évidemment tout cela, vous suivez l'actualité. Vous, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous vous immergez un peu comme un sous-marin, donc en enquête pendant un certain nombre de mois. Hein. Vous avez fait ça aussi donc avec Amazon. Là, vous le faites avec l'Empire de l'Or Rouge. Et puis, enfin, vous voyez quand même ce monde. Comment vous le voyez vous évoluer aujourd'hui? Vous avez donc un peu plus de 30 ans. Vous êtes tout jeune, originaire de la région de Toulon, et donc vous prenez un peu aussi le pouls d'une société à travers vos différents ouvrages. Donc on voit bien que l'environnement, alors à la fois, c'est une grande tapisserie de Pénélope parce que beaucoup de gens font des tas de choses que l'on met en avant. Philippe Bertrand, tout le monde ici dans cette émission, on le fait vraiment. Et ça, c'est formidable. On parlait pas de covoiturage il y a 10 ans, enfin, etc. Et puis en même temps, on voit bien que ça résiste quand même sacrément, quoi. Que le court-termisme est toujours là.
Tout à fait. Moi, j'ai vu de belles alternatives aussi dans le sud de l'Italie. J'ai vu des migrants exploités, mais j'ai vu également des esclaves affranchis travailler avec des jeunes militants italiens pour mettre en culture des tomates et faire notamment une sauce, je pense à Sfrutta Zero, Exploitation Zéro, qui est une sauce équitable produite dans les Pouilles du côté de Lecce et qui montre aussi, c'est un projet autogéré, qu'on peut parfois construire des alternatives. Cependant, je pense qu'il faut quand même, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre et que je suis allé enquêter en amont sur Amazon, avoir une compréhension non pas de la société, mais du capitalisme. Parce que c'est lui, selon moi, qui continue depuis plusieurs siècles maintenant de transformer nos rapports sociaux, nos rapports humains, notre convivialité. Et donc, je pense qu'il faut continuer de penser vraiment à l'échelle géopolitique le monde tel qu'il est. Si on prend l'exemple de la tomate ou de la viande en Chine, nous pouvons tous devenir végétariens demain en France, mais si 1,3 milliard Chinois mangent plus de viande, ça servira à rien. Donc il faut arriver comme ça à avoir une vision globale, et donc moi je me vois un peu comme un héritier des Lumières, donc j'essaie de mettre mes pas dans ceux des encyclopédistes, et c'est un peu pour ça que j'ai essayé de vulgariser cette grande histoire.
Voilà, et alors si on regarde, on va se décaler un tout petit peu de la Chine, on va arriver en Pologne, parce que là on a encore une autre actualité, cher Frédéric Danhé, avec ce que l'on appelle la forêt de Białowieża. Alors c'est la première, on va dire que c'est les reliquats, ou même encore ce qui nous reste de ce qu'on appelle une forêt primaire. Une forêt primaire, qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de temps en temps de redéfinir les mots. Qu'est-ce que c'est une forêt primaire?
C'est une forêt dans laquelle la main de l'homme n'a jamais mis le pied, où l'homme n'a jamais travaillé. Alors ça existe quasiment pas, parce qu'il suffit qu'un chasseur-cueilleur crache un noyau de mangue pour que la forêt soit modifiée. Białowieża, c'est la forêt qui ressemble le mieux à ce qu'était l'Europe avant que l'homme agriculteur n'apparaisse. Donc c'est une forêt qui, en gros, est là depuis 400 ans, même un peu plus, depuis la fin du XVIe siècle, pardon. C'est une forêt magnifique. Pourquoi? Parce que de par sa taille et de par son fonctionnement, sa richesse en espèces, c'est une forêt dans laquelle on trouve, vous savez, les chaînes alimentaires d'un bout à l'autre, hein, celles que l'on décrit sur les livres scolaires, hein, depuis le microbe jusqu'au loup, en passant par la banane, la baleine, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde. Voilà, vous voyez.
Qui n'est pas là, qui est à la Réunion d'ailleurs. Là,
il n'a pas osé venir à la fête de l'humain. Voilà, donc ça c'est très rare. Un écosystème d'une surface suffisamment importante pour que les chaînes alimentaires s'y exercent pleinement. Et voilà, c'est classé à l'UNESCO depuis la fin des années 70. Eh ben non, le gouvernement polonais, qui n'est pas très très vert, a décidé de multiplier par 3 les coupes. Il y a toujours des coupes parce qu'une forêt a besoin d'être un peu perturbée pour se renouveler. Sauf que là, il y a franchement, ça fait peur à tout le monde. Il y a une injonction européenne pour qu'ils arrêtent. Et ils n'arrêtent pas, c'est vraiment inquiétant.
Bon, d'accord. Sinon, dans d'autres actualités, donc nous avons éventuellement... Donc on a parlé évidemment d'Irma là-dessus. Et alors quand même, lorsque l'on voit ces fameuses tomates, Jean-Baptiste Mallet, vous, ça vous empêche pas quand même d'en manger, hein, loin de là, ça n'a rien à voir entre...
J'ai mangé une merguez ketchup tout à l'heure.
Ah oui, vous n'êtes pas rancunier, quoi.
Non, c'est peut-être mon côté punk, je sais pas.
Non, puis c'est bon.
Oui, c'est bon parfois de mal manger. Il faut remettre les papilles à zéro, Denis.
Et voilà, c'est ça, vas-y, après quand on passe sur le bio, vous voyez, ça nous fait tout de suite une comparaison intéressante, Stéphanie Pajot. Hein,
donc, mais en tout cas, moi j'ai trouvé un food truck bio sur la fête de l'Huma. J'étais bien contente parce que je pense que c'est un enjeu majeur pour l'économie sociale et solidaire. Finalement, l'alimentation, c'est la base des citoyens. Hein. On se nourrit 3 fois par jour et il me semble qu'il y a un vrai engagement politique et citoyen à mieux manger. Donc, j'étais contente quand même de trouver un seul food truck, mais j'en ai trouvé un sur la fête de l'Huma. Et je pense que dans l'avenir, effectivement, une manière de développer une bio locale, territorialisée, c'est recréer de l'emploi sur les territoires, c'est reconstruire du lien social. Et c'est vraiment ce qu'on porte, nous, en tant que productrices et producteurs bio à la FNAB. Et on est de plus en plus soutenus. Hein, le marché de la bio se développe, croît de plus de 20%, et on est bien contents du soutien des citoyens.
Oui, et alors, vraiment, les premières motivations, on le sait, c'est aujourd'hui, c'est d'abord santé-environnement. Après, c'est effectivement l'environnement et aussi, bien sûr, le bien-être pour soi. Hein, donc, mais c'est quand même ça. Enfin, le côté gustatif arrive aussi.
Oui,
Premier point, c'est quand même aussi santé-environnement, c'est là qui a fait vraiment décoller le marché. Frédéric.
Non, c'est juste pour reboucler entre nos deux invités, une petite info qui va faire plaisir aux deux, en particulier à Jean-Baptiste Mallet, qui a écrit son premier livre chez Amazon. Amazon a racheté un géant du bio américain,
oui,
et commence à distribuer du bio. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, en tout cas, ils sont dedans.
C'est clair.
Bon, bah écoutez, un grand merci donc à vous tous. Merci Jean-Baptiste Mallet, merci Stéphane Pajot, merci Frédéric. Vous voulez revenir, hein, Frédéric.
Oui, je pense,
on verra que d'autres actualités. Grand merci à vous, donc ici, donc à la fête de l'humanité. Vous êtes un peu sous la pluie, maintenant. vous ai parlé du beau temps, mais là, c'est vrai que c'est en train de passer. Merci à Camille Blanès, à Hélène Bizio qui a réalisé l'émission, et à Xavier Pestugia qui a réalisé les petits pastilles que l'on a entendu avec Louis-Albert Debreuil. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Je vous emmènerai dans les Corbières. Tenez, on va changer complètement. Rediffusion entre 5h et 6h du matin. Vous, à la Fête de l'Humanité, à 16h, vous retrouverez nos amis de Comme un bruit qui court. Ils seront là avec plein de sujets. Je crois même qu'il y aura Che Guevara qui sera invité. C'est formidable. Et la librairie francophone d'Emmanuel Quérade, ce sera juste après les informations donc de 15h.
CO2, mon amour, avec ISTA. La planète déborde d'énergie. La maîtriser, c'est notre métier. Retrouvons les éco-gestes sur ISTA.fr.